In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. À l'heure où vous écoutez cette émission, nous serons à la veille de la réunion du Conseil régional à qui sera soumis un budget qui programme la suppression de 100 millions d'euros dédiés à la culture, à la jeunesse, à l'égalité femmes-hommes et au planning familial. On peut donc supposer qu'à l'heure qu'il est, Mme Christelle Morançais a réuni les 57 conseillers de sa majorité pour leur donner les derniers ordres de vote et tous les éléments de langage afférents. Comme l'a rappelé Philippe Catherine jeudi dernier sur France Inter, il est loin le discours des vœux que Mme Morançais prononçait à l'aube de l'année 2024 et qui érigeait l'écoute et le dialogue comme des vertus cardinales auxquelles tout élu du peuple a l'obligation de se soumettre. Mais ne présageons rien de l'avenir. Peut-être que les élus du Conseil régional, même s'ils sont encartés dans des partis politiques, n'en sont pas moins des élus locaux, de terrain, et donc devront aussi mesurer l'impact de leur vote aux effets réels qu'ils produiront sur leur territoire. Ce projet de budget a fait réagir bien au-delà du petit monde de la culture, puisque ce sont des dizaines de milliers de signatures qui ont été collectées sur la pétition qui a été mise en ligne. Autre signe qui ne devrait pas être pris à la légère. Qu'un auteur de BD comme Étienne Davodeau, réputé pour son humanisme, sa tolérance et sa douceur, en viennent à prendre ses pinceaux pour manifester sa colère devrait faire réfléchir. Son savoureux dessin représentant la présidente de la région Pays de la Loire, une tronçonneuse à la main déchiquetant la culture, est tout sauf anodin. Dans ses choix budgétaires, l'accompagnement que produisait la région Pays de la Loire à l'écosystème des livres était loin d'être négligeable. Cet écosystème et le soutien financier qui lui est apporté par la puissance publique est une des représentations fortes de ce que l'on appelle l'exception culturelle à la française. C'est le sujet même de cette émission. Nous allons encore l'aborder aujourd'hui avec une des mal-aimées de la littérature en France. Je veux parler de la nouvelle. L'occasion faisant le larron, j'ai invité une revue, Arfan, et un auteur, Alexandre Seurat, pour en parler. Bonjour, Joël Glasiou.
Bonsoir.
Alors, à l'heure où on va diffuser, on dit bonjour, mais c'est pas grave, c'est les joies du faux direct. Bonjour Alexandre Seurat.
Bonjour Luc.
Vous êtes Joël Glasiou, vous êtes venu dans l'émission pour parler de Arfan, il y a exactement 5 ans déjà, et la revue est toujours là. Alors, elle a quel âge aujourd'hui, cette revue ?
Alors, elle a 33 ans dans quelques mois, donc 65 numéros, le 66e est dans le four. Je pense que de ce point de vue-là, on est effectivement une exception culturelle. Et j'ajouterais que nous n'avons eu aucune subvention, simplement sur 33 ans, pour un numéro, et que nous sommes toujours là. On a peut-être réduit la voilure, notamment depuis l'épisode Covid, où les abonnements sont plus rares, et les rencontres surtout sur le terrain avec les lecteurs sont plus rares. Mais on tient.
Qu'est-ce qui préside à la nécessité de faire perdurer Arfan?
C'est une volonté, je dirais, très très nette d'un petit groupe, au départ quelques cadras qui sont devenus évidemment aujourd'hui des septas largement, et ça tient là aussi toujours avec le même enthousiasme. Le seul acte directorial que j'ai pris pour la petite équipe, c'est lorsque l'on recrutait de nouvelles personnes, de ne jamais prendre des gens de notre âge, de toujours prendre des gens plus jeunes. Donc là, actuellement, nous sommes 6, et donc on a... moi qui étais enseignant, j'ai 2 anciens élèves dans le groupe. Voilà.
Donc, ce qui
nous inscrit dans la durée, quoi.
ce qui est inscrit dans la durée et ce qui permet de comprendre quel était votre métier avant, puisque vous avez parlé d'élèves, vous étiez nécessairement enseignant. La revue, alors c'est une revue quand même, moi, qui m'impressionne toujours, hein, par le programme qu'elle offre à chaque fois. Elle propose des textes d'auteurs installés, et puis des auteurs moins confirmés, plus jeunes, enfin on peut supposer en tout cas plus jeunes, je ne pense pas forcément à l'âge, mais en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous forcément publié. Alors ça s'organise comment ça ?
Alors le principe en est simple, dès les premiers numéros, de structurer la revue en deux parties, hein, qui fonctionnent différemment. La première partie, donc, je fais appel à des écrivains qui ont déjà publié. Tout le temps, sauf très rare exception, après une rencontre, hein, ça c'est très important, ça débouche très souvent sur un entretien qui est un préliminaire avant la lecture de la nouvelle qu'il nous offre. Hein, voilà. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est ce qui est dans la revue depuis maintenant une vingtaine de numéros sur la première de couverture. La deuxième partie, soit 50% de surface éditoriale, à peu près, à peine, hein, parce qu'il y a une dernière petite partie d'information qui fait 10% à la fin, mais c'est à peu près divisé comme cela. La deuxième fonctionne avec le petit groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, le comité de lecture. Et donc là, nous recevons des centaines de textes. Nous filtrons. 9 réunions par an, au minimum 30 textes par réunion, minimum. Mmh. Actuellement, c'est même plus que ça. Il y a eu un petit creux à un certain moment. Et donc, on en retient, c'est très simple. Hein, dans ce numéro-là, il y a 6 textes, 10 textes, 12 textes par an, maximum.
Mmh. Alors, ça,
avec
c'est...
des gens qu'on a, qui sont des primo-nouvellistes, si je puis dire. Et on a eu, la chance de découvrir des gens qui sont ensuite devenus... et qui peuvent passer aujourd'hui dans la première partie.
Qui peuvent monter en grade.
Oui, tout à fait.
Et passer de la quatrième de couverture à la première de couverture. Alors, quand on lit... sur la première de couverture, puisque vous annoncez les noms... moi, je suis toujours surpris. Hein. On voit des noms d'auteurs bien installés, plus qu'installés, très installés. Enfin, je pense par exemple à Sylvain Prudhomme ou à Jean-Philippe Toussaint. Comment ça se passe ? Comment ça se fait que des auteurs qui n'ont certainement pas besoin d'être publiés en revue, finalement, soit vous adressent des textes, ou alors c'est vous qui les sollicitez ?
Les deux sont possibles. Alors, si on prend ce numéro-là, je peux détailler, si
vous
voulez.
Mais
je pense que ça vient toujours d'une rencontre préalable. Hein, ça, c'est essentiel. Je crois qu'en dehors d'une fois ou deux, j'ai dérogé à cette règle, mais sinon, c'est toujours la même. Et à partir de là, il y a un échange avec l'auteur, soit qu'il... Alors, l'auteur nous offre un texte, ça, faut bien le comprendre, il l'offre à la revue et au lecteur. Hein. Mais c'est parfois un moyen de dire aussi qu'entre deux romans, il est toujours présent. Je me souviens de Lenormand, par exemple, qui cherchait à publier un livre et qui était déjà connu, etc., et qui a été refusé plusieurs fois, et qui m'avait refusé d'envoyer un texte. Et puis, 3 mois après, il m'envoie le texte en me disant « Voilà, je t'envoie une nouvelle, même 2 nouvelles, tu choisiras. » Hein, et il est allé chez un éditeur en disant « Mais j'ai été publié dans des revues après. » Donc, la revue est là. On passe en revue et on franchit une étape et on se fait une carte de visite, si je peux dire. Dans le système anglo-saxon, je pense que qui repose sur des agents littéraires, un écrivain... qui n'aurait rien donné à son agent littéraire dans l'année, ça ne serait pas de roman, pas de, etc. C'est pas bien. L'agent lui dit, mais il faut au moins m'écrire une nouvelle. Le minimum des choses. Donc,
écoutez bien, Alexandre Seurat, ce qui se dit là. Voilà. C'est très important.
Oui, je suis tout oui.
Voilà, ça c'est important. Alors, si on en vient exactement là, Belinda Cannon, c'est quelqu'un que j'avais repéré depuis très longtemps et qui est venu à Angers, à la librairie Lériot, et donc que j'ai pu rencontrer. On a vraiment sympathisé. Hein, et donc, la rencontre s'est faite spontanément. Alors, concernant Sylvain Prudhomme et mots Alexandre Sora...
Un petit mot quand même sur Belinda Cannon.
Ah, oui.
Elle a écrit une nouvelle, alors une courte nouvelle.
Oui, très courte.
Mais efficace. Alors, elle s'appelle Ferroviaire, pas de bêtises.
Oui. Elle s'appelle Noir Ferroviaire.
Noir Ferroviaire, c'est une nouvelle qui tient en exactement deux pages.
Ouais.
C'est d'une efficacité redoutable. Mmh. J'insiste là-dessus. Alors, c'est la première nouvelle, j'en ai lu d'autres, mais celle-là est vraiment tout à fait réjouissante.
Le contact qu'on a eu avait été très très bon. Donc, Belinda m'a envoyé deux nouvelles à moi de choisir. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle me semble être le reflet de ce qu'elle a écrit par ailleurs sur le désir, sur le baiser, sur la vie amoureuse, etc. Et donc, ça correspondait très, très bien. Et elle hésitait. C'est-à-dire que les auteurs aussi, je ne sais pas ce qu'en dira Alexandre tout à l'heure, mais le passage en revue est pour eux une sorte de laboratoire et aussi de jardin d'essai. Et très souvent, ils doutent. Et là, par exemple, Belinda m'a dit « Oui, mais bon, est-ce que ça va passer ?» etc. Même problème avec Sylvain Prudhomme, qui m'a envoyé un texte que je trouve alors absolument superbe, très dérangeant, très ambigu et très, très fort, qui me dit « Mais est-ce que ça va convenir ?» etc. Bon, mais je dis « Oui, mais parfaitement. » Mais il est totalement différent. C'est-à-dire que jamais on aurait pu imaginer qu'on puisse se réunir ce soir sur le même sujet, Belinda Cannon, Sylvain Prudhomme, Leila Sebar, Alexandre Seurat et Jean-Philippe Toussaint. C'est un lieu de rencontre totalement virtuel, mais terriblement efficace. Alors, si on parle de Leila Sebar, ça c'est une relation très ancienne. De temps en temps, Leila Sebar m'envoie un texte, deux textes, trois textes. Voilà, j'en fais ce que je veux. Elle était très très contente, elle m'a envoyé un mot cette semaine. Quand est-ce que je peux t'envoyer un texte parce que j'en ai. Voilà. C'est la relation de continuité avec des gens connus. Quant à Jean-Philippe Toussaint, on s'était rencontré il y a très longtemps, on avait déjà eu le projet, mais bon, c'est quelqu'un qui a. Qui a quand même une
et puis surtout qui a de la surface
et surtout qui est connu internationalement et qui est très très souvent ailleurs. Je conseille, et c'était une des questions que je voulais lui poser, c'est pour ça que je voulais l'avoir dans la revue, c'est le site qu'il a mis en ligne, qui est absolument exceptionnel. Il n'y a aucun autre écrivain qui fait ce genre de choses.
Même François Bon.
Je crois que oui. Enfin, je sais pas. Oui, c'est quand même différent puisqu'il met ses manuscrits, ses repentirs, etc. Et surtout, toutes les traductions avec dans chaque pays où il y a des traducteurs, un référent qui. Voilà. Et surtout, il y a même en ligne une sorte de séminaire sur la traduction des propres livres de Jean-Philippe Toussaint. Donc, c'est absolument exceptionnel pour les gens qui veulent.
Et en plus, il est un peu plus
très très dynamique ce site. Et en plus, il a lancé un projet qui s'appelle Borges Projet à partir d'une nouvelle donc qui est dans le numéro et qui génère des dizaines, des centaines. Je lui en ai envoyé une. Alors je sais pas. Je suis dans une galaxie qui s'appelle B 3000 et quelques. Et on clique sur une petite étoile et on a des centaines de nouvelles. Qui viennent sur l'écran, c'est un petit peu magique. Donc il est pas auto-centré, il fait un vrai travail d'ouverture notamment sur la nouvelle.
Et il a pris comme référence Borges, qui quand même reste une référence en termes de nouvelles quand même. Voilà.
Et il se sert de la revue pour lancer un appel à contribution.
Il est pas jeune cet appel à contribution. Ouais. On le relance.
C'est ce qu'il explique. Mais,
voilà, on le relance. Il l'avait lancé quand on s'était rencontré. Alors je ne sais plus où c'était sur un colloque ou un salon, mais ça fait déjà 3 ou 4 ans largement.
Donc ça c'est la première de couverture. Si on passe à la quatrième de couverture, alors on ne fait pas l'impasse parce que sur la première de couverture, il y a aussi Alexandre Seurat, mais comme il va être dans le deuxième temps de la conversation, on aura le temps d'en parler très longuement et il aura le temps de s'expliquer parce qu'il y a besoin d'explication. Sur la quatrième de couverture, là je lui mets juste un petit peu la pression, sur la quatrième de couverture, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les six auteurs rapidement, enfin les citer, parce que ceux-là, donc, ils ont c'est un autre parcours, ce sont d'autres parcours. Là, vous les avez sélectionnés. C'est un travail de, presque de jury que vous faites.
Ah oui, tout à fait.
Lesquels vous attirerez l'attention sur lesquels plus particulièrement ?
Alors, je dirais sur tous, mais en amont, il faudrait peut-être expliquer notre travail, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a 30 textes et qu'on n'en retient qu'un seul, puisque c'est à peu près ça, on essaye de trouver la qualité. Et au bout de 6 mois, on a 6 textes. Le problème, c'est que les 6 textes, parfois, ont un lien, parfois, on en a plus et on va faire des choix, on dira celui-là, on le garde pour le prochain numéro. Alors là, il y a deux politiques d'édition, c'est-à-dire soit on essaye de trouver une unité pour un numéro, soit au contraire, on garde la qualité et on cherche plutôt la diversité, l'éclectisme, comme j'aime bien prendre, c'est-à-dire le meilleur d'un domaine différent. Alors là, je pense que c'est un numéro éclectique dans sa première partie, mais aussi dans la deuxième, parce qu'en fait, on a des gens tout à fait différents au niveau de la conception de la nouvelle. Ce sont des conceptions totalement différentes de la nouvelle. Il peut y avoir des nouvelles historiques, des nouvelles peut-être noires ou policières, pourquoi pas érotiques et tout ce que vous voulez, mais avec des gens qui sont de provenances différentes, des jeunes. Là, on a par exemple Flore Nélin, je pense que c'est pour un texte qui s'appelle « Les oiseaux qui tracent dans le ciel notre langue maternelle », c'est un premier texte. On pense qu'elle va pouvoir aller plus loin. On a aussi des gens qui ont publié plusieurs fois dans Arfan, et Philippe Serrier et Thomas Zeski, par exemple. Philippe Serrier, c'est un texte un petit peu drôle et aussi très grinçant, parce que ça vise directement le péage à Paris, pour les voitures. Et donc, ça a quelques rapports avec les réalités actuelles. Ces deux-là... on les connaît déjà, on les a déjà suivis, et ça m'amène à faire une remarque sur notre travail, c'est-à-dire que nous travaillons de façon totalement anonymée. Et alors, ce qui est très curieux, ça montre qu'on a une certaine approche, même lecture, même à chaque fois, je distribue mes textes de façon anonyme à mes petits copains et mes petites copines de manière différente, on fait des petits groupes différents. Et bien curieusement, ça doit faire la troisième ou la quatrième fois qu'on choisit Philippe Serrier avec des textes différents. Pour Thomas Zeski, c'est la seconde fois. On a découvert aussi... Alors, pour Samuel Bideau, il avait fait un travail de traduction dans d'un écrivain tchèque dans un numéro précédent. Là, il nous a envoyé un texte de sa plume, donc là, il a été retenu immédiatement. Quant à les deux premiers, Florent Arc et Barbarou, des gens qui ont déjà publié dans d'autres revues de nouvelles, parce qu'elles sont peu nombreuses, on est 4 ou 5, même si le support papier est en train de disparaître, les gens aiment bien être publié sur un support papier au moment où beaucoup de nouvelles sont sur des sites ou des blogs internet. Mais la demande, alors nous, on essaye d'éviter ce genre de choses, de ne pas faire de double emploi. Donc, si vous avez déjà publié sur internet, vous avez publié, c'est tout. Mais on ne le sait pas toujours. Voilà. Et donc, les textes, je pense, sont très, très différents de sujets, de style. Voilà, c'est ce qu'on a là essayé de faire dans tout ce numéro-là.
Et maintenant, faisons une pause musicale.
Dream. day I walk on a railway between their money and their vibes. Far from being rich, but closer to real things, I keep on a praying. I have nothing to invite. I prefer to remind myself. Time on earth to verify your ego bookings. Better love the voice that cannot be suppressed. Let us love each other. Let's shake hands without making differences. Let's be together. What of cruelty and lies, even the day. I have nightmares. What destiny for our child? There are no bad ends to protect them from ego. What of cruelty and lies? Even the daytime, I have nightmares. What destiny for our child? There are no bad ends to protect them from ego.
Vous venez d'entendre C.J. Betts qui a chanté Ego, un de ses tout nouveaux titres. Vous écoutez Entre les pages sur Radio G, fréquence 101.5. Aujourd'hui, je reçois Joël Glasiot, responsable de la revue Arfan, et Alexandre Sera, auteur. Rejoignons à nouveau Joël Glasiot. Arfan, c'est aussi une expérience un peu particulière. Il y a un site, hein. Qui est
un blog,
un blog qui s'appelle nouvelledarfan.blogspot.com. Et sur ce site, moi, je trouve ça toujours, j'y vais régulièrement, il y a l'espace des micro-fictions.
Ah, voilà. Alors, on y vient.
Racontez les micro-fictions.
Alors, les micro-fictions, lorsqu'on a fêté notre 20e anniversaire, 40 numéros, c'est donc il y a plus de 10 ans maintenant, on voulait trouver quelque chose qui relance un petit peu, hein, parce que il faut que les gens viennent à nous d'une certaine manière. Là, une des premières choses qu'on avait lancées, c'était de lancer un concours de nouvelles. Au bout de 10 ans, on a arrêté, on a lancé un concours de recueil, recueil sur manuscrit qui a duré 8 éditions, qui était tous les 2 ans, mais qui était effectivement très très lourd, parce qu'on a eu jusqu'à 250 recueils, et on n'en publiait qu'un seul. Il n'y avait aucun autre exemple. En France, il n'y en a aucun autre. En Europe, il y a eu une autre tentative de ce genre, mais il n'y en a pas. C'est trop fou. Le travail des éditeurs. D'ailleurs, l'éditeur Paul Emac a dit « Moi, je veux bien vous éditer le recueil lauréat, ouais. Parce qu'en fait, vous avez fait la moitié de mon travail. Pendant ce temps-là, je n'ai pas à lire 250 recueils. »
Quand j'habitais très loin d'ici, j'habitais à Dunkerque, je connaissais Arfan et Nouvelle Ère à cause ou grâce à ce concours de recueil de nouvelles.
Voilà. Mmh. Alors, ça, c'était une manière de... Ça a alimenté pendant des années à la fois nos abonnements, la revue, etc. Parce que sur 250, évidemment, 250 ne vont pas s'abonner, malheureusement. 250 ne vont pas forcément lire la revue. Mais ils envoient des textes, etc. Ça crée des liens. Et donc, sur 8 éditions, je crois qu'on a, on a touché 1000 personnes différentes, 1000 nouvellistes, etc. Donc, ça crée des liens.
Mais revenons à la micro-fiction. Alors, la micro-fiction, vous avez savamment contourné, mais on y revient.
Non, mais j'y arrive. Parce qu'en fait, c'était... Lorsqu'on a senti qu'on fatiguait un peu avec des choses très très longues, c'est-à-dire 250 recueils de nouvelles à répartir, on s'est dit on fait l'inverse. Et comme nous sommes, beaucoup d'entre nous, nous étions des amateurs du court, je ne sais pas, on pourrait parler des haïkus d'une part, mais moi j'adore les nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon, qui sont des petites merveilles. Et donc, bon... un ami avait publié des histoires Jivaro, c'est-à-dire des micro-nouvelles en 100 mots. On avait trouvé le concept très bien, on s'y essayait, on s'est dit c'est bon. Et donc pour fidéliser aussi notre blog qu'on venait de créer, hein, et maintenant, on a lancé ça comme ça un petit peu pour voir comment ça fonctionnait. Et au bout d'un an, on a vu qu'il y avait 5 à 10 textes par mois qui nous étaient adressés. Et on a fait un petit jury qui n'est pas que le jury habituel de la revue, on l'a un petit peu étendu à l'extérieur. Et donc, on a vu que ça prenait de l'ampleur. Il y a eu quelques petits défauts, notamment pendant des mois où il n'y avait plus rien, où il n'y avait plus que 3, où des gens qui envoyaient, c'était toujours les mêmes personnes qui envoyaient, donc on avait mis en sourdine pendant le Covid, et puis 2 ou 3 fois autrement. Mais là, en ce moment, on reçoit des dizaines de textes. Entre les nouvelles pour la revue et les micro-nouvelles, c'est un texte par jour minimum.
Alors moi, j'invite les auditeurs à aller voir ces micro-fictions parce que c'est de la nouvelle puissance 10. C'est de la nouvelle, pas au carré, mais au cube, pratiquement. Et c'est d'une densité et l'ingéniosité d'assembler 100 mots pour produire une fiction, c'est sidérant. Enfin, on se dit, mais... Et là, on se rend compte qu'il n'y aurait pas besoin de mots en plus. Ça serait complètement inutile. La micro-fiction se tient toute seule, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Avant de conclure notre conversation, Joël Glasiou, vous êtes donc lecteur de nouvelles et on a besoin de conseils. Donc, dans vos dernières lectures, est-ce qu'il y a un recueil comme ça qui vous semble important et que vous aimeriez conseiller aux gens? Un recueil de nouvelles que vous avez reçu, que vous avez lu et vous dites, ah, il faut le lire, quoi, c'est impératif.
Alors, il suffit de lire le blog parce que de temps en temps, au moins 2 fois par an, je mets les coups de cœur.
Oui.
Donc, dans la revue aussi, la partie finale, j'ai appelé ça le nouvel air. Il y a des comptes rendus très brefs, un feuillet maximal de recueil. Bon, alors pour l'année, moi j'en vois 2. Alors, oui. On suit de près aussi non seulement le travail des éditeurs qui nous envoient leurs services de presse, mais aussi les prix. Il y a 4 ou 5 prix de la nouvelle en France, le prix Goncourt de la nouvelle et quelques autres. Mais cette année, j'ai vu 2 recueils intéressants. C'est celui de Véronique Ovaldé, qui est assez étonnant et qui a une très très belle unité avec des personnages qui passent d'une nouvelle dans l'autre, comme par tuilage, de parenté, je dirais, puisqu'ils ont tous des liens de parenté entre eux. Et donc ça, c'est intéressant de voir comment un recueil est composé, parce que le recueil, c'est pas une nouvelle isolée comme dans une revue. Il faut que ça soit agencé, qu'il y ait un fil rouge, que le lecteur puisse s'y retrouver. Et l'autre, écoutez, je reviendrai volontiers à Belinda Cannon. Si j'avais eu un prix à donner cette année à un recueil de nouvelles, je l'aurais donné à ces Vulnérables, édité chez Stock, qui sont... Et puis, un autre, mais un petit peu plus difficile d'accès, qui est... le titre est d'abord superbe, c'est « Ni de lait, ni de laine ». Alors, je suis en train de chercher...
Emmanuel Salasque.
Voilà, Salas, parce qu'en fait, elle s'appelait Pagano auparavant, mais c'est bien la même personne, et c'est une nouvelliste hors pair également.
Bien, et bien voilà, ça fait des conseils de lecture.
3 recueils de nouvelles à la veille de Noël.
À la veille de Noël, et on n'a pas eu le temps d'aborder cette question, mais voilà, le temps file, parce qu'effectivement, la nouvelle, on sait qu'en France, c'est pas, on n'a pas une culture de la nouvelle comme on le sait aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, où ils sont beaucoup plus, friand de cette forme-là. Nous, on est un peu plus résistant, mais peut-être que c'est notre tendance à être en surplomb dans la culture et donc peut-être considérer les formes brèves, c'est peut-être pas très respectable, ou alors c'est considérer les auteurs comme des fainéants.
Mais c'est parce qu'il y a des chaînons manquants en France, notamment le chaînon des journaux, des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels, qui manquent cruellement, contrairement aux autres pays qui font le même travail.
Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, merci Joël Gaziou, dans la revue, sur la première de couverture, donc il y a Alexandre Seurat qui est, dont le nom figure dessus. Moi, quand j'ai reçu la revue et que j'ai vu le nom d'Alexandre Seurat, que je croise de temps en temps et à qui on ne peut s'empêcher de poser la question « Alors Alexandre, il y a quelque chose de nouveau ?» Et c'est toujours des réponses très, très évasives qui sont produites. Bonjour Alexandre Seurat. Alors, ça y est, vous avez franchi le pas et vous êtes à nouveau sur du papier.
Oui, alors ça dramatise les choses d'une manière qui m'embarrasse un peu. Je ne sais pas trop quoi répondre. C'est-à-dire que je n'avais pas l'impression d'avoir disparu, mais c'est vrai que sur le plan éditorial... je n'ai plus publié depuis 2019,
ouais, 5
ce qui
ans.
Fait un temps assez long puisque j'avais publié 4 romans en 5 ans, donc ça fait effectivement 5 ans que je n'ai pas publié. Et c'est vrai que quand Joël m'a proposé d'envoyer un texte, c'était une invitation conjointe qui a été faite à Sylvain, que je connais bien, Sylvain Prudhomme, et à moi, et bien je me suis dit c'est un moyen d'extraire peut-être un des textes de mes nombreux chantiers, puisqu'en fait, j'ai pas mal écrit depuis 5 ans, mais des textes qui sont pas forcément finalisés pour la publication. Je me suis noyé comme ça dans une multitude de pistes, et je me suis dit ben, pourquoi pas en extraire un. Et je pense que j'avais conscience, en le donnant à la revue, que j'avais... J'allais faire face à ce genre de questions. Et donc, j'ai mis un petit peu en abîme cette question de la disparition, de l'angoisse de disparaître aussi dans le texte.
Tout à fait.
Et j'en ai fait une sorte de, peut-être, de réponse anticipée à cette question qui m'était posée.
Oui, oui. Donc, ce texte que vous avez, qui est publié dans Arvan, alors, le titre de la nouvelle, c'est « Dans son étrange gabardine ». Alors déjà, le titre est pas mystérieux, étrange. Voilà, c'est ce mot qui surgit, gabardine, un mot qui nous vient de temps reculé. Enfin, on s'imagine plus dans les années 50-60 qu'en 2022. Donc, ce titre, il s'est construit comment, ce titre « Dans son étrange gabardine » ?
Alors, le titre vient de, je pense, d'une phrase de la nouvelle.
C'est la dernière.
Enfin, j'ai du mal à dire la nouvelle parce que je suis assez embarrassé avec ce mot de nouvelle parce que je n'ai pas l'impression vraiment d'écrire des nouvelles. C'est un texte court qui ne présente pas vraiment de chute, je pense, mais on pourrait discuter de la définition d'une nouvelle avec Joël. Mais le titre, en tout cas, est venu assez tard et même ce paragraphe final est venu... très tardivement, quand j'ai retravaillé ce texte pour Arfan, comme une image finale, puisque le texte se présente comme un portrait de disparu, une image finale du disparu qui est saisi à travers un article vestimentaire. Alors effectivement, un côté un peu peut-être vieillot dans la formulation. Je suis assez lecteur de Modiano, donc je
alors,
imagine...
tout est dit.
se mettre sous une ombre tutélaire, c'est imposant. Voilà, c'était finalement cette image qui s'est imposée finalement et qui m'a paru une bonne manière d'introduire le personnage depuis le départ et peut-être de faire résonner cette phrase finale de manière différente puisqu'elle avait, elle rappelait quelque chose, un écho au lecteur.
Mmh. Alors, vous restez dans l'écriture de l'intérieur, de l'introspection. Qui caractérise. On était déjà dans ces univers-là dans vos 4 premiers romans. Alors moi, je sais que je garde une image très forte de l'administrateur provisoire. C'est peut-être le roman qui m'a le plus marqué. Enfin, j'en garde des images très très fortes. Et ça, c'est ce qui vous caractérise réellement. Il y a un jeu de narrateur, c'est écrit, c'est un jeu, c'est quelqu'un qui écrit. Il y a des moments où on a le sentiment d'être dans presque un texte autobiographique. Je vais juste... peut-être, alors ça c'est un extrait, c'est une phrase, peut-être n'y avait-il pas d'autre motivation à ce que je faisais moi-même, écrire des histoires courtes sur les personnes que j'avais aimées de façon à ne pas oublier et dans l'espoir d'y découvrir un sens qui pourrait justifier ma vie. Il y a une part d'autobiographie là-dedans.
Oui, tout à fait. La phrase est bien choisie parce qu'elle définit à peu près ce que j'essaye de faire dans l'ensemble des textes qui s'imposent à moi. Je dirais que les textes, en général, ne viennent pas d'une intention. J'ai rarement l'intention d'écrire sur un sujet. J'ai jamais eu l'intention d'écrire sur la maltraitance ou d'écrire sur la spoliation des Juifs. Mais tel ou tel sujet s'impose à moi par le biais d'une rencontre ou d'un événement personnel. Et celui-là, c'est un texte de deuil que je pourrais dire assez autobiographique, oui. Qui, à un moment donné, se cristallise dans une nécessité, peut-être, de faire mémoire, de rendre justice à une figure qui est devenue comme une ombre, puisque là, le personnage dont il est question est un disparu, c'est un portrait disparu. Et donc le narrateur là met dans cette phrase en relation un projet esthétique et puis ce que le personnage lui-même rêve de faire, puisqu'il parle justement d'écrire des histoires courtes. Donc le personnage, le disparu, devient un reflet de ce que le narrateur, j'ai du mal à dire moi, je me cache derrière des...
Derrière ce jeu du narrateur.
Voilà, derrière des masques, c'est peut-être le jeu de l'écrivain, de l'auteur de fiction. ce disparu devient un reflet du narrateur qui lui-même est hanté par la disparition, par la crainte de disparaître.
C'est intéressant tout ça, parce que crainte de disparaître, 4 ans, 5 ans de silence, qui ne sont pas 5 ans de non-écriture.
C'est le moment de faire une nouvelle pause musicale. Encore une voix féminine dans la playlist de cette émission, Lula Sauvage, qui nous avait habitués à des sonorités plutôt indiennes. Mais pour ce titre, elle s'est associée à DJ Spock, et le cocktail est vraiment très séduisant. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez l'émission Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou, et je reprends ma conversation avec Alexandre Seurat.
Le cerveau d'un lecteur est très bizarrement fait. En tout cas, mon cerveau de lecteur est très bizarrement fait. Quand j'ai lu votre nom sur la couverture, quand j'ai lu le titre de la nouvelle, j'ai spontanément des sons qui me sont venus dans les oreilles. Deux, particulièrement. Parce que, voilà, je fonctionne par émotion, par sensibilité, par sensation. Et ces deux sons qui sont venus à l'oreille, enfin à la tête, comme ça, dans ma tête, qui m'ont presque hanté, ces deux sons qui sont des sons de chansons. Le deuxième, c'est la chanson de Bob Dylan,
c'est « Man in the Long Black Coat ».
Ça, c'est le deuxième. Mais le premier, je vous le fais écouter.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for...
C'est ce son-là qui est venu en tête, comme ça, mais c'est vraiment le premier, The Famous Blue Raincoat de Leonard Cohen, ça vous parle ?
Oui, évidemment. Leonard Cohen, je l'ai découvert assez tardivement. Je me souviens d'avoir fait une rencontre... en Bourgogne, où le libraire me parlait de Leonard Cohen, et c'était pas du tout une référence que j'avais. Et je m'y suis mis, donc je peux la dater, cette rencontre, ça doit être 2016. Et donc ça doit être l'année où j'ai vraiment me suis mis et vraiment écouté Leonard Cohen, à travers d'abord un best-of, et puis en achetant tous ses premiers disques. Et évidemment, celle-là est très très émouvante, je me retrouve complètement dans la mélancolie qu'elle suscite, en fait.
Et c'est la même mélancolie que moi, j'ai ressentie en lisant vos lignes. C'est ce sentiment de mélancolie, nostalgie. Enfin, vous faites appel au souvenir, à la réminiscence de ce personnage qui a marqué le narrateur, qui est apparu, disparu, réapparu, qui ressurgit par une lettre, en fait. Et la question de... C'est quoi la question de la nostalgie pour vous, de la nostalgie et de la mélancolie pour vous ?
Disons que je ne sais pas si je m'intéresse à la nostalgie en elle-même, mais ça se rattache pour moi à la fonction de la littérature. C'est-à-dire que pour que ce que j'écris ait une valeur à mes yeux, pour que ça tienne à la page, j'ai l'impression qu'il faut que ça ressuscite quelque chose, que ça donne voix à quelque chose qui a disparu, à quelqu'un qui a disparu. Et donc, dans la nouvelle, le point de départ de la nouvelle, c'est un narrateur qui découvre que l'un de ses amis, pas forcément très proche, puisqu'il l'a connu 6 mois, à peine 1 an, s'est suicidé déjà il y a plusieurs années. Enfin, on ne sait pas au début qu'il s'est suicidé, mais on va vite le comprendre. Il s'aperçoit qu'il a perdu un être qui lui était cher, mais que ce deuil a quelque chose de paradoxal, puisqu'il a déjà 2 ans de retard sur ce deuil. Et donc, c'est comme s'il était obligé de ressusciter une amitié qui avait elle-même disparu. Ce n'est pas que la figure du disparu qui n'est plus là, c'est tout l'espace affectif dans lequel il est subitement plongé, qui est un espace ancien, en fait. Et ça m'intéresse formidablement pour l'écriture, parce qu'il me semble que l'écriture est armée pour ça. L'écriture permet de faire mémoire justement de ce qui échappe. Et c'est peut-être d'ailleurs que c'est un risque pour moi, parce que j'ai peut-être tendance à m'enfermer dans cette sensation, dans cette idée-là. Donc il m'arrive de me dire, mais voilà, il y a d'autres fonctions Écrire ne sert pas qu'à ça. Ça peut être un moyen de faire rire aussi. Enfin, mais très souvent, j'y reviens quand même.
C'est là où on se rend compte. Alors que cette nouvelle, c'est presque. Alors déjà, elle a une particularité puisque elle joue sur deux temporalités. Vous venez de le dire. Hein. Il y a l'avant et le maintenant. Et le narrateur, au moment du maintenant, il est obligé de se replonger dans l'avant. Donc, on est sur deux temporalités différentes. Et puis, très étonnamment d'ailleurs, deux territoires différents. Puisque la nouvelle, elle est entre la France et les États-Unis. Et ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui préside au choix, par exemple, qu'une partie de cette... de ce texte se déroule aux États-Unis. Qu'est-ce qui est, en tant que fiction, qu'est-ce que ça apporte dans cette nouvelle-là, ce texte court-là, qu'est-ce que ça apporte le fait de transposer comme ça loin ?
Bon, si je réponds franchement, c'est simplement que que la personne dont il est question dans la nouvelle, c'est quelqu'un que j'ai connu aux États-Unis, donc les souvenirs était directement ancré sur l'expérience autobiographique que j'ai eue une année passée aux États-Unis. Mais en fait, ça c'est seulement une manière de répondre, c'est la plus simple, mais en réalité, ça m'intéressait cet exil, parce que le personnage n'est pas américain, il est croate, donc c'est un exilé, c'est pas rien d'être exilé aux États-Unis. Je ne donne pas de date, mais disons vers le début des années 2000. Quoi. On est quand même proche de la guerre de Yougoslavie. C'est un exil qui n'est pas qu'intellectuel, même si le personnage est un intellectuel. Et d'une certaine manière, le narrateur, parti aux États-Unis, se décrit lui-même aussi quelque part comme un exilé. Et donc, le fait de déterritorialiser comme ça les deux personnages et le rapport à la mémoire aussi, ça ajoute une autre dimension qui est l'exil. Alors peut-être que pour le narrateur, ça n'est qu'une métaphore d'un exil intérieur qui a vraiment très peu à voir sans doute avec une guerre, mais il y a quand même une rencontre des deux personnages qui se fait sur cette base-là. Ce sont tous les deux des exilés de l'intérieur. Il y en a un qui est parti, l'autre est resté, mais finalement, il se reconnaît dans la silhouette disparue de celui qui est parti.
Surtout que ce personnage-là a un nom à consonance croate, mais on ne comprend pas au début de la nouvelle, du texte qu'on est face à quelqu'un qui vient de ce territoire-là. C'est dit dans le texte, hein, ça, ce n'est pas un souci. Mais il y a un côté mystérieux au début, quand ce nom apparaît, on est un peu désorienté parce que ce n'est pas trop... d'où vient ce personnage ? Enfin, il a un côté très venant de presque de nulle part. Quoi,
oui,
enfin.
Tout à fait. Ça me fait plaisir d'entendre ça, évidemment. Peut-être que l'étrange gabardine s'est détachée pour cette raison-là. C'est un personnage qui s'habille comme nul autre, en fait. Ou peut-être, pour le dire plus précisément, dont l'habillement, dont les vêtements reflètent le caractère un petit peu... exilé, ce manque d'ancrage dans des références qui permettraient d'être identifiable, d'être identifié, d'être... Et donc c'est une amitié très paradoxale sur qui fonde le lien des deux personnages, parce qu'elle se base sur une attraction du narrateur pour justement les aspects les plus mystérieux de Mathia, ça s'écrit Matija, on peut le lire Mathia, et justement on a du mal à le prononcer, on sait même pas peut-être au départ comment ça se prononce.
Moi je me demandais l'origine de vos influences, je me posais une question sur l'origine de vos influences, et je me demandais aussi si vous n'en aviez toujours pas fini avec la thèse thèse de doctorat que vous avez écrite, qui portait le titre de « La perte des limites, hallucinations et délires dans le roman européen entre 1920 et 1940 ». Et moi, je me demandais si ça ne résonnait pas encore dans votre écriture, ces travaux que vous avez fait, ce travail de recherche que vous avez fait. Moi, je vois des accents romantiques dans le texte qui est dans la revue Arfan. Est-ce que c'est juste, pas juste? C'est une insulte?
Non, pas du tout. Cette thèse, je pense que c'était une manière de défricher un territoire que j'allais ensuite travailler par l'écriture, le récit ou la fiction. J'ai écrit des textes qui portent vraiment sur la souffrance psychiatrique qui va jusqu'au délire, jusqu'aux hallucinations, jusqu'à des souffrances paroxystiques. Je pense à Petit Frère ou à Un Funambule. Je dirais que là, la souffrance psychique est toujours un sujet qui m'intéresse profondément. Enfin, la détresse psychique de celui qui est à la fois fascinant, extrêmement cultivé, et puis qui habite un abîme. Ça m'intéresse. Non pas que j'habite moi-même un abîme, mais parce que je me reconnais je reconnais une part d'humanité que je ne trouve pas ailleurs dans ces figures-là. Alors c'est peut-être moins le délire, moins les hallucinations, parce que je m'étais attaqué à des textes pour ma thèse qui étaient très spectaculaires, de Céline, de Joyce, où les hallucinations vraiment sont un ouvroir de littérature potentielle, j'ai envie de dire, où il y a toute une série de visions fantasmagoriques qui débarquent. Moi, je suis plus sur un territoire en demi-teinte. Je parlais de Modiano tout à l'heure. Sont toujours des personnes... Depuis un certain temps, je m'intéresse plus à des personnages qui habitent un territoire difficile à caractériser. Et le mot exil intérieur, peut-être, serait plus proche que les hallucinations ou le délire, mais on est toujours dans le domaine de la détresse, ça c'est sûr. Ouais.
Moi, je pensais à nouveau, quand on est lecteur, on est donc détenteur de toutes nos lectures. Moi, je pensais à certains moments au Loup des Steppes de Hermann Hesse. Je pensais à ces climats, à ces ambiances, enfin, ces moments troubles et le désarroi du personnage principal du texte qui est dans la revue. Parce que je pense que moi, il y a du désarroi dans ce personnage-là. C'est-à-dire la prise de conscience que la personne qu'il a rencontrée a disparu. Il ne la reverra jamais. Mais qu'il n'a pas su qu'elle avait disparu et qu'il n'aurait pu ne pas le savoir. Mais on sent que... Ça travaille à l'intérieur de lui, cette conscience-là, en fait.
Le Loup des Steppes faisait partie du corpus de thèse, donc ça doit m'influencer à des années d'écart sans forcément que j'en ai conscience. Mais ouais, tout à fait, toutes les climats un petit peu incertains, tout ça, le fantastique, ça relève des textes qui me nourrissent depuis toujours. Ouais.
Si on avance, si on sort un peu de la revue, si on sort un peu de ce texte, donc j'ai bien entendu, vous le dites dans l'interview qui précède la publication, sur la dénomination nouvelle, texte court. Je ne vous cache pas que moi aussi, j'ai un problème sur la définition de la nouvelle. Je n'ai jamais compris la définition de la nouvelle. En fait, c'est un texte court, quoi, point, et c'est tout. Et si une nouvelle, il faut qu'il y ait une pirouette à la fin, je n'en vois strictement pas l'intérêt. S'il faut faire du cirque pour écrire, alors je préfère, je ne sais pas ce que je vais devenir. Donc voilà. Non, si on essaye d'avancer un peu... Il y a eu donc cette thèse, on vient de parler des influences. Aujourd'hui, vous... Alors, il y a quel livre sur votre table de chevet ?
Ah, sur ma table de chevet ?
Ouais.
Sur ma table de chevet, tout récemment, il y a Coyote de Sylvain Prudhomme. On revient à des, à des auteurs que j'ai déjà, qui ont déjà été évoqués. Un livre que j'ai beaucoup aimé, très, pas un grand roman, puisque c'est un texte autobiographique qui raconte son périple en autostop aux États-Unis. Et c'est la grande classe de Sylvain... procède par invention formelle, mine de rien, comme ça, avec le plus grand brio. Il nous présente des monologues. Le narrateur s'estompe totalement et le monologue fait exister l'interlocuteur de manière implicite, souvent hilarante. Donc c'est un texte très réussi que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur ma table de chevet ? Il y a Il y a un texte de critique littéraire de René Girard, parce que je travaille en ce moment sur un roman avec une sorte de trio amoureux, un trio féminin. Et je me suis beaucoup intéressé du coup aux questions de rivalité qui nourrissent les relations amoureuses. Et c'est des questions que René Girard a questionnées. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir de plus près René Girard. Voilà, il y a Chateaubriand, je me suis remis dans les mémoires d'Outre-Tombe en picorant ici et là. Donc c'est pas une méthode très rigoureuse, mais enfin j'avais besoin de me nourrir de ça. Voilà, il y a des choses assez, assez variées.
Littérature française ou littérature étrangère ?
Récemment, j'ai beaucoup lu de littérature française. Comme j'écrivais beaucoup, en fait, j'ai pas beaucoup lu les derniers mois. J'ai lu Tolstoï cet été, dont je suis tombé fou amoureux il y a 3 ans. Donc, la littérature étrangère aussi. Beaucoup de. En fait, je dirais que ces années de silence, elles sont aussi fructueuses parce que je me sens moins obligé de lire les auteurs récents. Je dirais que j'ai jamais aussi peu écrit que quand j'ai publié La Maladroite et L'administrateur provisoire. Et l'inverse se produit depuis quelques années. C'est-à-dire que je suis ici et là sollicité, mais finalement beaucoup moins que quand on publie un livre. Et c'est aussi une période où je me nourris énormément, en fait. Et donc, peut-être que l'écriture, elle est faite de ces alternances-là, et qu'il faut accepter, même si je le vis aussi comme une angoisse, hein, de disparaître pour réapparaître.
De voir qu'un de vos romans, La Maladroite, reçoit un prix pratiquement 9 ans après sa première publication, ça fait quoi ?
Oui, vous faites allusion au prix décerné à la traduction turque. Et ben, c'est très agréable parce que je suis allé en Turquie où j'avais quelques attaches parce que j'animais des ateliers d'écriture dans des lycées français depuis 2 ans. Et puis la troisième année, j'avais pas d'atelier prévu et j'ai été invité pour un prix. Donc c'était une expérience assez exceptionnelle. Il y a un peu une impression étrange qui est de vivre Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on me ramène toujours à ce livre-là. Beaucoup de lecteurs m'en parlent et je suis toujours identifié comme l'auteur de La Maladroite. Donc il y a une sorte de trouble à vivre une autre expérience d'écriture aujourd'hui. La Maladroite me paraît très loin. Et puis en même temps, et peut-être que là, c'est les années qui m'ont apporté ça. J'ai envie de ne pas bouder mon plaisir et de, bah, si la reconnaissance vient encore par ce livre-là, bah, je prends ce qui vient et je ne vais pas faire de la coquetterie en voulant renier quelque chose qui me paraît très loin de moi. Enfin, je goûte ça aussi, peut-être parce que j'ai assez peu de sollicitations, donc ça me fait plaisir. Ouais.
Eh bien, Alexandre Serra, je vous remercie d'être venu parler de ce travail. J'ai beaucoup apprécié votre texte, vraiment beaucoup. Puis je suis ravi d'avoir à nouveau cette conversation avec vous. Merci d'être venu dans les studios de Radio G. Merci Joël Glasiou d'être venu nous parler avec tant d'enthousiasme de la revue Arfan, que je ne peux que recommander, parce que des revues de nouvelles, il n'y en a pas beaucoup. Des revues de papier, il n'y en a pas tant que ça. Il y a d'excellentes revues en Anjou. Il y a Dissonance, dont je parle régulièrement, qui fait un travail de défrichage important. Il y a l'incontournable revue La Revue du Bout du Monde qu'on doit nécessairement lire. Et puis, il y a la vôtre. Et je pense que il y a un particularisme qu'il est bon de toujours éclairer. Je vous remercie de votre visite à tous les deux. Bonne soirée, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
L'heure de la fin de l'émission approche, c'était la dernière de l'année 2024. Encore merci à Joël Glasiou et Alexandre Serra pour leur visite. Au cours de l'émission, vous avez entendu Cégibet qui a chanté Ego et Lola Sauvage associée à DJ Spock qui ont interprété le titre Yatra. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 1er janvier à 17h et l'émission plongera dans les bulles puisque ce ne sont pas moins que 4 autrices et auteurs de BD qui seront autour des micros. J'ai nommé Mathéo Lerouge, Amy Bill, Éric Jussezac et Gérard Berthelot. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis le magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.